Bonjour frères et sœurs, je vous accueille dans ce temps de Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête simplement d'une histoire ponctuelle, passée. La Pentecôte, c'est le temps de la vie. Dieu est avec nous. Je vais citer simplement ce verset de la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur et il sera éternellement avec vous. La Pentecôte, c'est donc sur le temps. Ce n'est pas un événement, c'est une histoire qui ne se terminera jamais. Nous allons prier le Seigneur. Envoie-nous ton secours du ciel, toi qui nous as tant aimés, et qui nous a préparé une demeure dans ta maison, à côté de toi. Et aujourd'hui, ta demeure est en nous, en chacun de tes enfants. Merci pour la présence du Saint-Esprit vivant avec nous. Amen. Il est de tradition de faire la lecture du livre des Actes des Apôtres, que nous pourrions appeler les actes du Saint-Esprit, tellement tout ce qui s'y passe est absolument remarquable. Et je vais faire la lecture du chapitre 2 au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et Pierre, un peu plus tard, quelques instants plus tard, a pris la parole. Et il a dit devant cette foule étonnée, « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » La Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu qui est répandu sur les disciples. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la main d'un homme qui a fait ces choses, c'était la promesse du Père, c'était le grand projet de Dieu d'habiter non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le cœur humain. Cet Esprit a été souvent annoncé par Jésus quand il disait « L'Esprit est avec vous et il sera en vous. » C'est un esprit de consolation, un esprit défenseur, un avocat, un guide, un consolateur. Mais cet esprit qui vient dans l'être humain, à partir de ce jour-là, dans le cœur des croyants, cet esprit, c'est notre salut. Le salut, c'est quoi ? C'est pas simplement chanter des chants le dimanche matin. Le salut, c'est Dieu en nous, par son esprit, Christ en nous. ça peut se résumer en deux mots. Christ en nous. Mais comme il est en nous, cette présence, elle fait des choses. S'il est en nous, il fait quelque chose. Et s'il fait quelque chose, c'est pour le bien de ceux qu'il a tant aimés avant la fondation du monde. Cette présence de Dieu qui soutient toutes choses et que le ciel ne peut même pas contenir. S'il est en nous, il ne peut pas dormir. Il entend nos chagrins, nos prières, nos chants, nos joies, nos peines. Et il fait la transformation, la résurrection de notre être intérieur avant de passer à l'être extérieur. Il y a dans les Actes des Apôtres deux signes. Un signe, c'est quelque chose qui montre. Deux signes de la présence du Saint-Esprit dans les apôtres, dans la chambre haute. Le premier signe, c'est un bruit. Le bruit d'un vent impétueux venant du ciel. C'est-à-dire un vent de tempête, une tornade qui fait beaucoup de bruit et qui a dû réveiller tout Jérusalem parce qu'au bruit qui eut lieu, la multitude est accourue. Pas une brise légère, un vent violent a déraciné les arbres morts qui occupent tant de place dans nos vies. D'ailleurs, le mot « esprit » signifie « souffle ». C'est un mouvement de Dieu, ça exprime Dieu qui avance et qui nous entraîne avec lui dans un mouvement de progrès, de transformation. Plus près de toi, mon Dieu. Voilà, nous l'avons chanté souvent. Ce souffle de Dieu, cet esprit, nous entraîne chez le Père, dans la maison du Père. Seuls, nous ne pourrions y parvenir. Ce vent représente la marche de Dieu en nous. Dieu avance en nous, ce qui veut dire qu'il apporte des changements, des progrès. C'est l'Esprit du Seigneur qui guérit nos cœurs brisés, qui ouvre nos yeux souvent aveugles. C'est l'Esprit du Seigneur qui promet la liberté à ceux qui sont opprimés, oppressés, prisonniers. Ce vent violent qui a traversé la chambre haute des apôtres ce matin de Pâques, de la Pentecôte, ce vent violent me fait penser aux tonnerres, aux éclairs qui ont fait trembler le mont Sinaï quand Dieu a posé ses pieds sur cette montagne pour donner sa loi, son chemin, sa vérité à son peuple, la vérité d'un Dieu qui délivre. Et ce souffle me fait aussi penser à la création de l'homme. Quand Dieu fit l'être humain à partir de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'être humain est devenu vivant. Ce n'est pas qu'un souffle. Le souffle de vie, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce souffle, nous le retrouvons le soir de Pâques quand Jésus est avec ses apôtres, à nouveau dans une chambre haute, et là il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il ne nous a pas communiqué simplement son haleine, un murmure dans nos oreilles. Il a soufflé, il a donné le Saint-Esprit à ses apôtres. Et quand je relis cette magnifique page de la vallée des ossements desséchés, vision du prophète Ézéchiel, cette vallée remplie d'ossements desséchés, ce qui signifie qu'il y a eu ici une bataille et que l'armée a été vaincue et qu'il ne reste plus rien. Et devant cette désolation, parce que cette armée, c'est la maison d'Israël, et devant cette désolation, l'Esprit va souffler. Et ils vont se remettre sur leurs pieds, ils vont se redresser. Et l'Esprit va faire revivre ces morts à partir de rien. Ce souffle de Dieu, cette présence de l'Esprit créateur en nous, nous donne la volonté, la capacité, le discernement, une liberté, une joie de vivre. Quand Lazare est sorti de son tombeau sur l'ordre du Christ, Lazare sort, il était enveloppé de bandelettes. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Et je pense que sur nos vies, il y a souvent des bandelettes qui nous tiennent dans la mort, dans la dépression, dans le découragement, et qu'il faut que cet esprit de liberté, cet esprit qui rend libre, souffle sur nous pour nous enlever ces bandelettes, et que le Christ habite dans notre cœur. L'apôtre Paul résume tout ce que je viens de vous dire en disant « Dieu nous a rendus à la vie, on avait perdu la vraie vie, il nous a rendus à la vie avec le Christ par le Saint-Esprit ». Et puis, le jour de la Pentecôte, il y a eu un deuxième signe, deuxième clin d'œil de Dieu pour nous donner un message, pour nous donner une parole. C'était les langues, c'est-à-dire des paroles. Qui dit langue, dit parole. Et Pierre a expliqué que ce don partagé sur les apôtres et sur les disciples et sur Marie, ce don partagé de la présence, une présence partagée, une parole partagée, l'apôtre Pierre dit, eh bien, ce grand miracle va se produire et ce sera la fin des temps. C'est la fin des temps depuis 2000 ans. Et mais à la fin des temps, tout à fait à la fin, tout au bout, ce miracle ne va pas se produire dans un paradis, mais dans un temps de catastrophe, d'apocalypse, où le soleil se changera en ténèbres, où la lune se changera en sang, dans un temps où on ne saura plus que faire, mais l'Église recevra la capacité de dire, de parler, d'annoncer un message, et tous ceux qui appelleront le Seigneur seront sauvés. C'est pour ce temps-là que l'Esprit a été également donné. Le Seigneur parlera donc au monde de ce temps, et je pense que c'est notre monde aussi, par les disciples, par des jeunes gens, des jeunes filles, des servantes, des serviteurs. Il parlera au monde par l'être humain, ce qui représente l'importance de notre témoignage. La Pentecôte, c'est, je pense, une fête qui parle de la vocation de l'Église à parler, à annoncer. Et les gens qui sont venus devant cette maison, la chambre haute, ils entendaient les apôtres parler dans une langue étrangère et ils comprenaient. Je crois qu'il faut que l'Église sache qu'elle doit être comprise. On ne doit pas avoir une langue de bois, une langue incompréhensible. La parole s'est faite pour être entendue et reçue s'il y a une compréhension. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. On comprenait. Au temps de la tour de Babel, les hommes voulaient aller chez Dieu comme ça, à coup de tête, comme si on pouvait monter chez Dieu avec ses propres forces. Et Dieu a confondu leur langage pour les disperser. Dieu les a dispersés par les langues qu'ils ne comprenaient plus. À la Pentecôte, c'est tout à fait le contraire. Dieu rassemble les hommes en leur donnant de parler une langue qu'ils comprennent. Il rassemble à Babel, il disperse. Mais que disent-ils ces gens pour être entendus? Ces apôtres, ils parlent des merveilles de Dieu. Et les hommes qui étaient là, je vous en parle dans quelques instants, ont compris. Parce que la Pentecôte, revenons au départ. La Pentecôte, c'est une fête agricole. On fêtait la libération de la terre qui avait souffert par les criquets, les chenilles, par les intempéries, par les cyclones, par les inondations. Et la terre est un lieu de grande souffrance. Et puis le Seigneur avait béni l'année et tout s'était bien passé. Et puis là, ce jour-là, on a porté ses offrandes à Dieu et puis on célébrait le Dieu des moissons abondantes. On remerciait Dieu pour la moisson. Ça, c'est l'origine de la Pentecôte, une fête agricole des moissons. Mais c'est aussi une fête qui invite tous les hommes, pas seulement la terre, les herbes, mais tous les hommes sont invités, car Dieu dit « En ce même jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Donc, espérance d'un changement, pas seulement pour la terre, mais pour l'être humain. C'est une fête qui nous met devant le Seigneur des moissons. Ça veut dire pour faire un peuple ensemble. Et à la Pentecôte, autre signification, c'est la fête de l'Église. Une nation peut-elle naître en un jour? Et ce jour-là, en un jour, eh bien, un peuple est né. Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Mais qui sont tous ces gens qui sont venus en entendant le bruit du vent impétueux dans la chambre haute? Qui sont ces gens qui sont des hommes pieux de toutes les nations, Alexandrie, de Rome, de Grèce, de Syrie, de Turquie? Qui sont ces gens? Que font-ils là? Ce sont des Juifs exilés. Ils ont été déportés, ils ont subi des moments difficiles dans leur histoire et ils sont restés dans les pays où ils ont été déportés. Mais à la Pentecôte, ils reviennent à leur source. Ils reviennent à Jérusalem, leur berceau, autour de Dieu. Et Dieu les attend. Et Dieu les attire. Parce que derrière les fêtes de la Bible, il y avait la présence de Dieu qui attirait les hommes à lui. Alors ces gens, ce sont des Juifs courageux, parce qu'il fallait faire le grand voyage. Et puis, ils étaient parfois indésirés, ils prenaient de la place, et puis ils étaient un peu exclus de la communauté de Jérusalem. Ils étaient sans patrie, ils étaient dépouillés de ce qui fait leur plus grand bonheur. Par la présence de Jérusalem, ils étaient sur une terre étrangère. Et voilà que, ce matin-là, les apôtres parlent leur langue, comme pour les accueillir. Les apôtres parlaient la langue de la Judée, de la Galilée, mais ils ne parlaient pas le latin, l'arabe, le grec, etc. Les apôtres les accueillent avec un message qu'ils peuvent comprendre, ces exilés du bout de la terre. Pour parler à ces gens, il fallait une langue avec un amour dévorant. Il fallait une langue de feu pour parler au cœur de ces gens blessés par les événements de la vie, sans force et dispersés au bout de la terre. Et ces apôtres parlent avec eux un langage que Dieu leur a confié. Dieu leur a donné un message pour eux. Ils parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Dieu leur a donné un message pour les consoler et les remettre comme la vision d'Ézéchiel, les remettre sur pied, les remettre en piste, les remettre dans la vie. Entre ce Dieu de Jérusalem et puis ce peuple d'exilés abattus au bout de la terre, il y a donc une parole. Entre Dieu et nous, il y a une parole, c'est la parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Sur la tête des apôtres, et c'est peut-être là le signe, pour moi il y avait les langues étrangères, mais peut-être le plus grand signe après le vent impétueux, c'était cette langue qui se posait sur la tête des apôtres. Ce n'était pas du feu. C'était des langues. Nous savons ce que c'est qu'une langue. Mais c'était une vision que tous ont eue de voir sur la tête de leur frère une langue qui se pose, mais une langue de feu, comme du feu. Mais une langue, ce n'était pas une flamme de feu, c'était une langue qui se posait. Une langue qui était faite pour être donnée aux autres. C'était un message, une parole pour les autres. Et cette langue de Dieu étonnante, elle ne fait pas peur. Ce n'est pas une langue qui va annoncer des catastrophes sur les champs, sur les moissons, sur les prairies. C'est donc la fête d'un peuple revenu sur la terre d'Israël, revenu, et Dieu les attend avec un message, avec des mots qui viennent de Dieu. Je trouve ça absolument remarquable. Nous avons tellement de mal, nous, à trouver les mots, comme on dit, à avoir des mots justes, des mots consolants, rassurants, des mots qui redonnent de la valeur, qui permettent aux gens de s'exprimer, d'écouter. Et ils parlent des merveilles de Dieu. Ils ne se rendent pas compte, les apôtres, mais ceux qui sont là comprennent qu'ils parlent des merveilles de Dieu. Alors, les merveilles de Dieu, ce n'est pas ce qui se passe sur Mars ou sur la Lune, ce n'est pas ce qui se passe dans les mystères de la création. Les merveilles de Dieu pour ce peuple exilé, ce peuple abattu du bout de la terre, les merveilles de Dieu, c'est le besoin de confiance dans l'avenir. Les merveilles de Dieu, c'est le besoin de guérison, c'est le besoin de consolation. Les merveilles de Dieu, c'est tout ce que Dieu va faire avec eux. Les merveilles de Dieu, c'est des promesses. Ce n'est pas des paroles qui dépassent les gens, qui sont au-delà. Les paroles de Dieu recoupent l'actualité de ces gens-là. Ça correspond à ce qu'ils ont besoin, à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils n'ont pas eu, à ce qu'ils ont espéré. Et là, Dieu parle toutes les langues, parce que tout vient d'un Dieu qui a donné une parole pour l'arabe, une parole pour le romain, une parole pour l'égyptien. Il parle toutes les langues du monde, parce que Dieu connaît notre langue. Quand je dis notre langue, je veux dire notre histoire. Comment nous nous sommes construits. Il sait que nous sommes le résultat de beaucoup d'histoires, résultat de beaucoup d'émotions, de rêves, de combats, de souffrances, d'échecs, de victoires. Et Dieu comprend tout. Il comprend notre langue. Je veux dire, il comprend d'où nous venons, ce que nous sommes, tout au fond de nous. Si ce Dieu-là ne comprenait pas, nous serions profondément seuls dans la vie, incompris. Qui peut comprendre l'autre? Dans le livre des Proverbes, il est dit que le cœur a ses propres chagrins et l'autre ne comprend pas. On ne peut pas comprendre le cœur de quelqu'un qui a perdu son enfant, quelqu'un qui a perdu sa santé. On ne peut pas le comprendre sans le vivre. Et ces langues brûlantes qui étaient sur les apôtres, elles étaient faites pour parler aux autres. Ce n'était pas simplement une démonstration pour faire un peu du spectacle. Ces langues représentaient, qui étaient une vision, représentaient un message qu'ils devaient donner aux gens qui étaient là. Il ne fallait pas les oublier, il ne fallait pas les rater. Ils étaient là pendant quelques heures seulement. Il y avait un message de Dieu pour eux, comme Dieu a un message pour vous dans la brièveté, la rapidité de votre vie. Et ça, ça a permis que les Juifs venant de toute la terre, eh bien, entendent des paroles d'un Dieu qui s'occupe d'eux, d'un Dieu qui est attentionné, qui prend soin d'eux. Il nous connaît tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes. La Pentecôte, c'est le signe d'un nouveau peuple qui va naître à partir de ce Dieu qui rassemble ses enfants, d'une Église. C'est le commencement d'une Église avec des gens tellement différents. Nous sommes tous différents dans l'Église. Nous avons des histoires, des niveaux, des compréhensions tellement différents. Et pourtant, nous partageons le même pain, nous partageons l'offrande, nous partageons le temps de Dieu, nous partageons le pain de Dieu, Jésus-Christ. Et nos vies sont tellement différentes. Mais Dieu comprend la langue de chacun, l'histoire de chacun. Il parle à chacun. Et cet esprit qui s'est posé sur les apôtres, avec cette langue qui dit maintenant c'est à vous de parler. Dites-leur le message que j'ai mis dans votre cœur pendant 3 ans. Dites-leur ce message dans leur langue. Vous pouvez, je suis avec vous. Eh bien, cet esprit qui était sur les apôtres et qui est sur les chrétiens aujourd'hui, sur moi, sur vous, cet esprit me dit, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. C'est possible, parce que Dieu nous en a donné la capacité, la présence, le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon temps de Pentecôte, un temps de Pentecôte où l'on va, ben oui, on va se rapprocher de l'autre, on va lui parler. On a reçu de Dieu une langue, un message, un mot, on ne va pas le noyer dans les mots, mais on va lui dire quelque chose. Après le culte, on dira quelque chose, et demain encore et encore. Parce que la Pentecôte, c'est une fête de la parole. Si vous relisez bien le texte, il est question de beaucoup de paroles. C'est la fête de la parole de Dieu qui atteint les êtres humains. Nous allons prier ensemble. Nous sommes, Seigneur, en communion avec toi. Et nous sommes proches des autres. Et ce que nous recevons de toi, nous voulons le donner aux autres. Permets-nous, dans ce temps qui nous rappelle tes œuvres du commencement et tes œuvres d'aujourd'hui et de demain, permets-nous, Seigneur, de partager, de nous approcher de l'histoire de l'autre avec une parole qui va remplir de joie l'autre, notre frère, ou pour qu'il devienne un frère. Merci pour la parole de ce jour. Renouvelle la face de la terre, renouvelle la face des églises. Garde-nous dans cette dynamique, dans cette course vers toi, le Seigneur et le Maître. Amen. Que Dieu nous transforme. Je pense que vous comprenez bien que ces gens qui ont entendu ces paroles, ils n'ont jamais plus été les mêmes. D'ailleurs, quand Pierre a commencé à parler, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dû se dire, mais qui est ce Dieu qui s'occupe tant de nous ? Je souhaite que nous puissions voir des malades du cœur guérir, que nous puissions voir des malheureux se réconforter en entendant les paroles de Dieu. Je souhaite que nous avancions dans l'évangélisation. Je souhaite que vous viviez avec vos enfants et vos aînés un beau temps de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.